le rayon BD, Joe Sacco au cœur des terres fracturées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de France Culture qui se donne pour ambition de parler de toute la bande dessinée, tous les styles, toutes les époques, tous les continents, tous les genres. Et il est un genre que nous n'avions pas encore abordé depuis que le Rayon BD existe, alors qu'il a pourtant le vent en poupe. C'est celui de la bande dessinée de reportage. Nous allons donc aujourd'hui combler cette lacune et nous allons le faire de la plus belle des façons, puisque nous recevons celui qui peut être considéré, sinon comme l'inventeur, du moins comme le plus grand auteur actuel du genre. Auteur de bande dessinée, journaliste, qui a réalisé depuis 30 ans une œuvre de référence, avec des reportages en Inde, en Irak, au Caucase, et surtout pour les plus célèbres en Palestine et en Bosnie. Il est maltais et américain, et il s'appelle Joe Sacco. Bonjour Joe Sacco.
Hello, nice to meet you here.
Et bonjour Marguerite Capel, qui allait assurer la traduction aujourd'hui.
Bonjour, enchantée.
Joe Sacco, qui a publié en France, au mois de janvier, un nouveau livre qui nous emmène dans un territoire qu'il ne connaissait pas, le Grand Nord canadien, à la rencontre des populations autochtones, qu'on appelle aussi les Premières Nations, ces populations qui étaient là, dans ces régions, bien avant l'arrivée des colons européens. Un livre dense, épais, qui aborde beaucoup de sujets et soulève beaucoup de questions historiques, sociales, environnementales. Un livre qui s'intitule « Payer la terre » et qui est publié par Futuropolis et la revue 21. La première image de ce livre, en pleine page, nous montre un bébé qui vient de naître. Il a encore son cordon ombilical. Et il est porté à bout de bras dans un geste qui est à la fois un geste de contemplation et de présentation. Derrière lui, un cours d'eau, l'accouchement a eu lieu au bord de la rivière, des montagnes, des grands conifères et un bateau en peau d'orignal. Ce bébé est aujourd'hui un homme, il s'appelle Paul Andrew et je vous propose de l'écouter.
I am originally from Tulita, but I live in Yellowknife.
Je suis originaire de Tulita, mais je vis à Yellowknife. Je suis né dans les monts Mackenzie. C'est dans ce paysage que j'ai grandi, entouré de personnes heureuses, en bonne santé, travailleuses et qui prenaient soin les unes des autres. Quand j'étais un jeune homme, donner était quelque chose qui allait de soi. Si quelqu'un avait besoin d'aide, de bois, de feu, d'eau ou simplement d'entraide et de gentillesse, on était toujours là, les uns pour les autres, sans l'idée de demander quelque chose en retour. Si quelqu'un avait besoin d'aide, tu devais aller l'aider. C'est comme ça qu'on m'a élevé.
Joe Sacco, la voix que nous entendons, je l'ai dit, c'est celle de Paul Andrew. C'est la première personne qu'on voit dans votre livre. C'est lui qui raconte tout le premier chapitre. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Paul Andrew?
Paul Andrew is a Dene person from a place
called Paul Andrew, c'est un Dene qui vient de Tulita, dans la vallée de la rivière Mackenzie. Et je l'ai rencontré à Yellowknife, on s'est tout de suite bien entendu. Et il m'a raconté une histoire qui illustrait ce que c'était de grandir dans la forêt.
Les premiers mots de votre livre, Joe Sacco, sont « Mon grand-père me raconte ». Et sur la vingtaine de pages de ce premier chapitre, vous racontez en effet la vie des Dénés telle qu'ils la vivaient quand Paul Andrew était petit, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années. C'était important pour vous de commencer par ce passé, par ce récit?
Yes, it seemed, you know, as I was writing the book, it seemed like an obvious place to start.
Oui, en fait, en écrivant le livre, il m'a semblé évident de partir de ce point de départ-là, parce que si on veut parler d'aujourd'hui, si on veut parler de la manière dont les choses ont changé, il faut un point de référence. Et l'histoire de Paul Andrew, c'était le parfait point de référence, d'abord parce qu'elle était magnifique quand il me l'a racontée, et puis parce qu'en fait, elle aborde la vie dans la forêt sous tous ses aspects. La dimension spirituelle, les difficultés, et ce que ça signifie de grandir comme ça au sein d'une unité familiale aussi resserré dans les montagnes.
Donc on voit les Dénés vivre avec la nature, chasser, couper du bois, pêcher, construire des bateaux. Est-ce que ça a été difficile pour vous de dessiner cette vie d'avant que vous n'avez pas vue, ces détails, les vêtements, les animaux, par exemple les poissons que les gens pêchent, on sent que vous n'avez pas dessiné n'importe quel poisson, l'allure des bateaux ou des constructions en bois qui supportent les tentes. Tout ça, on sent que vous avez voulu être précis. Comment est-ce que vous avez fait?
Oui, c'est vrai que j'ai essayé d'être extrêmement précis, et vous avez raison, ce ne sont pas des choses que j'ai pu voir de mes propres yeux. Il y a des archives, à Yellowknife notamment, il y a des archives photographiques qu'on peut trouver en ligne, donc ça a été une source d'informations précieuses. Ensuite, les descriptions de Paul Andrew lui-même, et puis aussi des vidéos faites par des Dénés aujourd'hui, qui ce qu'on peut trouver sur YouTube, dans lesquelles ils montrent comment on fabrique un bateau en peau d'orignal ou comment on monte une tente. Parce que moi, vous vous en doutez bien, je ne suis pas quelqu'un qui suis habitué à ça, à la vie au grand air, à monter des tentes. Donc j'ai vraiment observé comment ils faisaient. L'usage du bois, les pierres, le foyer, comment le construisait dans la tente, et je me suis servi de toutes ces informations pour essayer de construire une image la plus représentative possible de l'expérience des Dénés quand ils vivaient dans la forêt. Et puis ensuite, j'ai envoyé ces images à Paul Andrews et à d'autres personnes d'ailleurs, parce qu'il me semblait que c'était les images les plus importantes à leur faire voir pour qu'ils puissent donner leur aval et me dire que c'était effectivement comme ça pour les autochtones.
Donc ces grandes images, c'est celles qu'on peut voir aujourd'hui dans le premier chapitre de ce livre « Payer la terre » Joe Sacco. Des grandes images qui sont souvent dans toute la page. Le regard se promène un peu entre des images de nature, des images de gens faisant diverses activités. Et au milieu de toutes ces images, dans un cadre, sur un fond noir, on voit le visage de Paul Andrew avec sa moustache blanche, avec ses lunettes rectangulaires. On voit son visage qui raconte. Pourquoi est-ce que vous l'avez dessiné autant de fois, avec toujours la même expression, toujours de face? Qu'est-ce que vous vouliez faire en nous le montrant quelquefois, plusieurs fois par page?
En fait, je voulais que le lecteur, évidemment, sache à quoi ressemble Paul Andrew. Et puis, il avait cette manière de raconter son histoire avec un tel calme, en fait. Il était extrêmement détendu, il le racontait sans jamais élever le ton, sans jamais le moindre changement de ton. Et je voulais vraiment que le lecteur perçoive, en fait, ça. Ça me paraissait vraiment important. Et puis, c'était aussi une manière de rappeler aussi qu'il y a toujours un être humain, en fait, derrière l'histoire, qu'il y a l'homme âgé, l'enfant, qui sont toujours derrière cette histoire.
Ce premier chapitre, il se termine par votre voix off, on ne vous voit pas encore, qui dit « C'est bien gentil tout ça, mais je voudrais qu'on en vienne au moment où un avion apparaît. » Et Paul Andrew répond « Ouais, ouais », comme il l'a fait plusieurs fois dans le premier chapitre. Mais cette scène de l'avion qui apparaît, elle arrivera seulement une centaine de pages plus loin. Et entre-temps, vous allez raconter d'autres choses et vous allez vous mettre en scène. Et au début du chapitre 2, on vous retrouve tel que vos lecteurs vous connaissent, souvent là avec vos lunettes blanches dans lesquelles on ne voit pas vos yeux, et vous partez donc pour le Grand Nord. Comment est-ce que tout ça a commencé, Joe Sacco? Pourquoi et comment est-ce que ce sujet s'est imposé à vous?
I think like everyone else I know, I'm interested in climate change.
En fait, comme toutes les personnes que je connais aujourd'hui, je m'intéresse au réchauffement climatique qui me semble être la problématique la plus urgente aujourd'hui et qui affecte absolument tout le monde. Et donc j'avais l'intention d'écrire un livre sur ce sujet-là d'une manière ou d'une autre, mais je ne voulais pas forcément l'aborder de façon directe. J'avais envie de traiter la question de l'extraction des ressources naturelles et qui est plus affecté que les peuples autochtones par cette extraction des ressources naturelles. Ce sont eux, évidemment, donc je voulais suivre un groupe d'une nation autochtone et essayer d'explorer leur rapport à l'industrie du pétrole, à l'industrie du gaz. Et par coïncidence, il s'est trouvé que ça a été les Dénés et que je suis allée là-bas et ensuite le livre est devenu encore bien davantage que ça.
Alors on va parler de tout ce que ce livre est devenu et de toutes les problématiques qu'il aborde. Mais la première chose que vous montrez quand vous vous mettez en scène de façon toujours un peu distanciée, un peu ironique, la première chose que vous montrez, c'est l'immensité du territoire. Les territoires du Nord-Ouest, dans une province du Canada qui fait 1 350 000 km², c'est-à-dire plus que la France, l'Espagne et le Portugal réunis, pour 41 000 habitants, donc une ville moyenne en France. Cette question de l'espace gigantesque, du temps aussi, qu'on met à aller d'un endroit à un autre. Au début, Paul Andrew dit que quand il était petit et qu'il vivait de façon nomade, il faisait 10 à 13 km par jour, ce qui paraît totalement risible dans des espaces si grands. Cette question de l'espace et du temps, c'est la première chose que vous avez voulu nous faire sentir. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous y êtes pris graphiquement?
I think that space and geography are characters in the book.
je pense que l'espace, la géographie, ce sont des personnages du livre, surtout un livre comme celui-là. La Terre elle-même est un personnage du livre. C'est un livre que je voulais consacrer à la relation en fait, entre le peuple et la Terre et au peuple de la Terre. Et donc, nécessairement, il fallait que je présente cette Terre-là et que je donne justement cette sensation du temps et du vaste espace de cette Terre.
Alors je crois que comme toujours, quand vous travaillez, Josako, vous êtes parti avec un carnet de notes et un appareil photo. Vous ne dessinez pas sur place, vous revenez avec votre matière et vous construisez un livre. La construction de ce livre, qui est, je dois dire, très bien construit, mais on sent que ça n'a pas dû être simple, que ça a été très compliqué d'articuler les moments d'explication, les moments de contemplation, les moments plus narratifs. Il y a aussi des scènes, on va y venir plus tard, vraiment dramatiques, que vous contrebalancez parfois avec des moments plus légers. Comment est-ce que vous avez pensé la construction de ce livre ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui totalement convaincu que vous avez fait comme il fallait ?
The way you structure a book is, you know, I think I've worked enough that.
La manière dont on structure un livre, je pense que je travaille depuis assez longtemps pour que quelque part ce soit vraiment intériorisé en moi. Quand on est journaliste, on commence par chercher des informations et ensuite on se met effectivement à écrire. Là, dans ce livre-là, il y a énormément d'éléments qui sont mouvants et donc l'idée, c'était qu'il fallait repérer les éléments qui étaient vraiment structurants, importants et les associer pour réussir à dire l'histoire en entier. Après, savoir si j'ai vraiment réussi ce travail-là, je ne suis jamais entièrement convaincue, j'ai toujours le sentiment qu'il y a peut-être des choses que j'ai pu laisser de côté et que j'aurais pu approfondir. Mais parfois, il faut finir par se dire quand même qu'on a en tout cas fait au mieux.
Vous l'avez dit, ce livre a commencé comme une enquête sur l'extraction des ressources des sols des territoires du Nord-Ouest, qui comprennent beaucoup de gisements d'énergie fossile, du gaz et du pétrole, qui sont extraits par un procédé qu'on appelle la fracturation hydraulique, fracking en anglais, qui consiste à envoyer très profondément dans les couches de schiste, du sable, de l'eau, des produits toxiques. Et les hydrocarbures remontent à la surface. Vous n'avez pas interrogé les gens qui sont responsables de ces programmes, vous n'avez pas interrogé les industriels. En revanche, vous avez dessiné les machines qui extraient ces ressources du sol. Et on les voit sur la couverture, il y a un contraste entre le haut de la couverture, le peuple d'aîné dans la nature, et ces machines qui paraissent totalement sorties d'un univers de science-fiction, qui sont totalement monstrueuses. C'était important pour vous de montrer ces machines, ça suffit de montrer ça pour nous faire comprendre.
I wanted to show things as much as possible from the Dene perspective.
En fait, ce que je souhaitais, c'était montrer le plus possible les choses du point de vue des Dene.
A spokesperson from a
et quand
an
on
industry,
va discuter avec un porte-parole d'entreprise, avec un industriel, on entend en fait un discours qu'on a déjà entendu mille fois. En fait, on n'apprend rien qu'on ne sait pas déjà.
So it was important for me to concentrate.
Ça me paraissait beaucoup plus intéressant de me concentrer sur les Dene et sur la possibilité pour eux de raconter leur propre histoire. Quant à la dimension abstraite dont vous parlez avec ces machines, effectivement, il y a quelque chose d'un peu abstrait dans cette présence en fait de l'Occident sur ces territoires-là. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en évidence avec cette abstraction.
I wasn't interested in showing the corporation's viewpoint on resource extraction, but I do have Dene
voices. C'est que je ne voulais pas forcément montrer le point de vue des grandes entreprises, mais par contre, je montre des voix de personnes Dene qui soutiennent en fait ces entreprises et ces industries d'extraction des ressources naturelles, parce que c'était très important pour moi de montrer que ce n'était pas noir et blanc et qu'il y a des Dene pour qui aujourd'hui la vie est comme ça et qui pensent que cette extraction des ressources naturelles va pouvoir les aider aussi à évoluer. Donc j'ai montré vraiment toujours le point de vue des Dene, mais qu'ils soient pour ou contre ces industries.
Ou voire un peu ambivalent. Mais c'est vrai qu'au cœur de tous ces points de vue divers, des Dene, sur ces problématiques d'extraction, il y a cette notion dont vous avez parlé et qui est le titre de votre livre, cette notion de terre. Alors en français, on a un seul mot pour dire terre, la matière de notre sol et notre planète, mais en anglais, paying the land. Je crois que vous l'avez appelé paying the land, ce livre, payer le pays, payer le territoire. Et cette notion de territoire est vraiment au cœur de toute cette réflexion écologique. Est-ce que vous pouvez nous dire, Josako, ce que ça veut dire payer la terre pour un Dene?
I can tell you what they told me. I hesitate to say what the Dene think.
En fait, je vais vous raconter ce que eux m'ont dit qu'ils pensaient. J'hésite toujours à dire les Dene pensent ceci ou cela.
They're going to hunt or fish, put up a tent,
Ce que les gens m'ont raconté, c'est que quand ils vont sur la terre, quand ils partent à la chasse, ils partent pêcher, avant de commencer leurs activités, de commencer à faire du bruit, ils commencent toujours par honorer la terre, par apporter un cadeau. Donc c'est ce qu'ils appellent justement payer la terre. Et en tant qu'occidental, c'est une notion qui m'a paru extrêmement spirituelle. Elle montre bien, en fait, une façon de se lier avec la terre, une connexion entre le peuple et la terre qui est très différente du point de vue des occidentaux. Et c'est vraiment, je pense, très rare pour un occidental de se dire, bah voilà, je suis sur cette terre, je reconnais que j'y suis. J'ai une reconnaissance, en fait, pour ma présence ici. Ce sont des concepts que j'ai trouvés très beaux et qui m'ont énormément appris.
En français, on a un seul mot pour dire terre et on a aussi un seul mot pour dire payer. Et payer, pour les Dénés, ça veut dire rendre hommage, donner quelque chose à la terre. Pour les Occidentaux, tels qu'ils sont arrivés dans ces régions du nord-ouest du Canada, payer, ça veut dire acheter, donner de l'argent et recevoir la terre en échange. Et là, c'est le cœur du problème historique, et il y a toute une partie historique dans ce livre Joe Sacco, ce moment où les colons européens ont voulu s'approprier ces terres et ont voulu les acheter, peut-être, à des gens qui ne considéraient pas qu'ils la possédaient. Et donc, là, il y a eu un fossé culturel irréconciliable.
Oh yeah, a great cultural gap with Westerners.
Et effectivement, un fossé culturel avec les Occidentaux, ça vient de la tradition anglophone, en fait, anglaise à la base, de John Locke, qui est une personnalité extrêmement importante, un philosophe qui a joué un rôle crucial pour déposséder, en fait, les peuples autochtones de leur terre parce qu'ils considéraient la terre comme un bien, comme une propriété sur laquelle on pouvait justement avoir de titres de propriété que si on travaillait cette terre. Et bien évidemment, travailler cette terre, c'est suivant uniquement le concept occidental de ce que ça signifie. Et donc ça voulait dire en fait en faire une exploitation agricole, travailler la terre en tant que fermier. Alors que les Dénés, tout ce qu'ils font, vivre sur la terre, chasser, pêcher, etc., tout ce que font les Dénés d'habitude, n'était pas considéré comme un usage légitime de la terre, comme une façon correcte d'utiliser la main-d'œuvre et d'exploiter justement cette terre, et donc de justifier un titre de propriété.
Quand
les Dénés parlent de la terre, en fait, ils n'en parlent pas en termes de propriété, alors que pour les Occidentaux, une terre, c'est avant tout un bien, une propriété qu'on va explorer, délimiter, qu'on va découper en parcelles et qu'on va pouvoir vendre, alors que pour les Dénés, la terre ne leur appartient pas, c'est plutôt eux qui appartiennent à la terre, en fait. Donc c'est un concept totalement différent dont on a sans doute beaucoup à apprendre, en particulier à cette époque de réchauffement climatique où on a vraiment à se demander quelle est justement cette terre, quel est son rôle.
When I sing in my language, I sing to my creator, my God, and for all the pain.
Quand je chante dans ma langue, je chante pour mon créateur, pour mon Dieu, et pour toutes les douleurs de chaque jour.
Love songs through prayers. And they get closer to God.
On guérit de ces douleurs par des chansons d'amour, des prières, et elles nous rapprochent de Dieu. Je suis née et j'ai grandi au nord de Yellowknife, dans la nature. Et un jour, on a été emmené dans une école par un pilote alors qu'on ne parlait même pas anglais.
We were thrown into a different culture.
On ne pouvait pas imaginer qu'on allait plonger dans une culture aussi différente, qu'on n'a jamais comprise. Et aujourd'hui, avec l'éducation, la Bible et Dieu, je t'encourage à continuer de faire les choses auxquelles tu crois vraiment.
La femme qui chante et qui parle s'appelle Rose Fredlund. Et elle parle de Joe Sacco d'un avion qui arrive. Cet avion, vous l'évoquez à la fin du premier chapitre, je l'ai dit, et on le retrouve finalement 100 pages plus loin, devant le même paysage que celui de la première page devant lequel on voyait un bébé, devant le même paysage qui cette fois-ci est vide. Vous écrivez, je cite, Cher lecteur, il y a quelque chose qui plane au-dessus de ces histoires, quelque chose qui hante ce projet tout entier en fait. J'aurais peut-être dû en parler avant. Jusqu'à présent, je me suis contenté de décrire ses effets, mais nous devons à présent regarder dans sa direction. Et à la page suivante, on voit cet avion qui arrive, cet avion qui vient arracher des enfants à leurs parents. C'est ce que vient de raconter Rose Fredlund, c'est ce que vous avez entendu plusieurs fois en parlant avec les Dénés pendant tout ce temps de votre enquête. Que s'est-il passé? Que symbolise cet avion?
The plane was what took the children who lived in the bush, as you mentioned, from their families, from their culture, from the land.
Alors l'avion, c'était ce qui venait arracher les enfants qui avaient grandi dans la forêt à leur famille, à leur culture, à leur terre, à tout ce qu'ils avaient connu jusque-là, pour les emmener dans des écoles qui avaient été conçues pour les couper justement de leur culture, de leur langue, de leur terre, de leurs parents. Un programme extrêmement efficace qui s'est prolongé pendant 150 ans et qui n'a disparu tout à fait que dans les années 1990 en fait, et qui est vraiment fondateur dans la culture aujourd'hui des Dénés, et qui avait à vocation à effacer la culture des Dénés. Il y a une commission officielle qui a parlé de génocide culturel. Ce ne sont pas mes mots à moi, c'est une commission officielle qui les a prononcés. Quand les Dénés rentraient chez eux, ils ne pouvaient plus parler avec leurs grands-parents, avec leurs parents. Certains avaient complètement oublié comment vivre dans la forêt. Ils devenaient en fait des étrangers dans leur propre pays, et c'est une expérience extrêmement fondatrice dans le vécu des Dénés du monde moderne. Si vous rencontrez quelqu'un qui est à mon âge et qui vient des territoires du Nord-Ouest qui est déné, il a probablement vécu ça dans son enfance.
Ce génocide culturel qui a en effet été établi par la commission Vérité et Réconciliation qui a terminé ses travaux en 2015 au Canada. Ce génocide culturel a eu des conséquences terribles pour les dénés et les autres Premières Nations, Inuits ou Métis. En particulier, les violences terribles, les ravages de l'alcoolisme, les violences familiales, les violences sexuelles, qui sont des fléaux qui se reproduisent maintenant, on peut dire presque de manière atavique pour un certain nombre de personnes. Vous aviez commencé votre travail, Josako, en réfléchissant au changement climatique. Et finalement, c'est cette question de la violence dans une société déracinée, dans une société qu'on a déracinée, que vous avez reçue, j'allais dire, en pleine face.
It wasn't what I expected. In fact, some white people who know the Dene well.
Oui, effectivement, je m'attendais pas forcément à ça. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on m'avait mise en garde en me disant attention, c'est un sujet délicat, ne l'aborde pas forcément avec les gens. Mais en fait, c'est un sujet qui était toujours extrêmement présent dans nos discussions et qui finalement est venu sur le tapis assez facilement parce que tout est lié en fait.
If you've worked to destroy a people's culture, they have a more difficult time.
Quand vous détruisez la culture des gens, vous créez aussi beaucoup plus de difficultés pour eux pour parler d'une voix unie, pour être capable d'affronter ce qui les menace. Quand vous répétez aux gens que leur culture ne vaut rien, qu'elle doit être éradiquée, etc., vous avez en fait un impact politique extrêmement fort sur la manière dont ce peuple va se considérer lui-même et dont il va se mobiliser.
Ces notions de culture, d'identité, de transmission, elles ont des résonances très différentes selon qu'on est déné ou selon qu'on est occidental, comme vous et moi. Aujourd'hui, en Occident, ce sont parfois des notions avec lesquelles on a un peu de mal, qui sont parfois même suspectes. On a eu plusieurs fois dans l'histoire, par exemple, à la fin des années 60, des idées de faire un peu table rase de du passé, de la patriarcalité, de beaucoup d'éléments de notre culture. Vous-même, Josako, vous êtes un enfant du rock, vous venez du rock, de quelque chose qui a voulu se tourner vers l'avenir, ou peut-être vers le présent en tout cas, en rejetant certains éléments de culture. Est-ce que fréquenter ces gens, les interroger, ça vous a fait bouger, vous, dans vos convictions sur la nécessité d'envisager sa culture d'une certaine façon?
Well, it did make me think about identity and culture and the strength you can get from that identity and culture.
Oui, ça m'a fait énormément réfléchir à l'identité, à la culture et à la force qu'on puise dans une identité, dans une culture, et même à repenser mon rapport à des choses comme l'Église catholique, par exemple, qui a causé tellement de dommages, mais en même temps, les institutions ont aussi certains aspects qui sont positifs. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir à la suite de ce livre-là. Mais les Dénés pensent ces questions de manière totalement différente des Occidentaux. Nous pensons en termes d'individualité. L'individu, c'est la liberté, être un individu, faire absolument ce qu'on veut.
I think, the way I understand it, The Dene think of
Les Dene ne pensent pas du tout comme ça. Pour eux, l'individualisme, c'est à l'échelle de la communauté, parce que c'est important d'être une communauté unie avec des liens très resserrés pour survivre à la nature sauvage, pour survivre au froid et de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc la liberté, elle se trouve plutôt au niveau du groupe, même si le parallèle n'est pas non plus complètement limpide. C'est quand même extrêmement intéressant, je trouve, de voir que la liberté se situe au niveau du groupe.
We have state structures in the West that oppress us.
Aussi, en Occident, on a des structures qui peuvent nous opprimer, qui vont être à l'échelle d'un État, qui vont être à l'échelle d'une institution. Alors que pour les Dene, les structures se situent à l'échelle familiale, à l'échelle parfois de la famille étendue. Donc c'est une échelle qui est complètement différente et l'individu ne réagit pas face à ces structures, à cette échelle-là, de la même manière qu'un individu confronté à un État.
Vous avez souvent dit, Josako, que vous travailliez comme un journaliste, mais que vous vouliez essayer de penser comme un historien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, dans cette nouvelle enquête, penser comme un historien? Est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir proposer de solution, ne pas proposer de solution?
Well, I think any solution has to be a Dene solution. That's up to them. And they have to resolve those sorts of things themselves.
Bien, toute solution doit être Dene avant tout. Il leur appartient de résoudre les nombreux problèmes auxquels ils font face. Je pense que j'ai pris conscience récemment qu'on ne pouvait pas en fait séparer le journalisme du travail d'historien, parce que vous pouvez parler d'une actualité qui se passe aujourd'hui, mais vous ne la comprendrez jamais réellement si vous n'abordez pas, si vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a deux semaines, ce qui s'est passé il y a un mois, il y a un an, il y a un siècle. Donc pour moi, l'histoire fait partie intégrante en fait du journalisme.
Et donc vous avez encore mené ici une magnifique enquête de journaliste et d'historien, Josako. Est-ce qu'un jour on vous verra, comme auteur de bande dessinée, faire de la fiction?
Yes, definitely. I mean, I like to think of myself as a cartoonist. Rather than just a journalist, because
oui, absolument. En fait, j'aime me considérer comme un auteur de bande dessinée et pas seulement comme un journaliste, parce que je pense que la fiction est capable de faire énormément de choses que le journalisme seul ne peut pas faire, parce que le journalisme doit coller aux faits et les faits ne racontent jamais toute l'histoire, alors que la fiction permet de combler justement les failles entre les faits et d'aborder des choses comme la nature humaine, toutes sortes de choses que le journalisme ne peut pas faire.
Merci beaucoup, Josako.
Thank you very much. It was a real pleasure.
Et merci Marguerite Capelle d'avoir traduit.
Merci.
On se quitte avec un morceau d'un artiste de Yellowknife, au cœur de votre terrain d'enquête dans les territoires du Nord-Ouest canadien. Il s'appelle Naga et le morceau s'intitule Agoda Day, ce qui signifie commencement en langue tlicho. Je rappelle le titre de votre livre, Josako, Payer la Terre, coédité par Futuropolis et la Revue 21. Toutes les références seront sur la page du rayon BD sur franceculture.fr, une page sur laquelle vous pourrez bien sûr réécouter et télécharger cette émission et toutes les précédentes. Une émission qui était, comme chaque semaine, préparée avec Pascaline Bonnet, qui était aujourd'hui réalisée par Émilie Valla, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Restez à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.